Oui, moi, j'en peux plus du son de ta guirlande, là.
Oui, ben moi aussi, mais en fait, j'ai perdu la télécommande et je sais pas comment l'arrêter.
Souffrir, ce n'est pas la même chose que dire j'ai mal. Jouir n'est pas la même chose que dire c'est bon. Et aimer n'est pas la même chose que dire je t'aime. C'est ce que nous dit le philosophe André Comte Sponville alors qu'il parle de la place du silence et de la parole. Bienvenue chers auditeurs. Aujourd'hui justement, on vous parle de la parole, de la communication bienveillante avec son enfant. Avec Anne Etilleux qui organise au CLEP à Laval un cycle de 7 ateliers à destination des parents. Dans la seconde partie de votre émission quotidienne, on retrouvera le reportage Pensée locale de la semaine et on ira à Angers à la découverte d'un site qui sera détruit prochainement mais qui en attendant reprend vie provisoirement pour les habitants du quartier. Bonjour à toi Lucie, comment tu vas ?
Eh bien écoute Margot, malgré des petites catastrophes à base de café renversé ce matin, ça va.
Je crois d'ailleurs qu'il n'y a pas que des sujets légers aujourd'hui dans les nouvelles du jour.
Et non, malheureusement, alors pour commencer, enfin malheureusement on ne sait pas, mais pour commencer, un petit point scolaire. La SNUDI FO53 a réagi aux décisions prises par le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, concernant les mesures qu'il a annoncées mardi 5 décembre. Son plan Attal fait suite aux résultats de l'enquête PISA. PISA, c'est pour Programme International pour le suivi des acquis des élèves. Et c'est une évaluation qui se déroule tous les 3 ans, qui vise à tester les compétences des élèves de 15 ans en lecture, sciences et mathématiques. Cette enquête relève, pour la faire courte, une baisse du niveau scolaire des élèves. Monsieur Attal, donc, pour y remédier, a annoncé plusieurs mesures mardi 5 décembre. Et je ne vais pas avoir le temps de tout vous détailler ici, mais l'objectif affiché est d'élever à nouveau le niveau de l'école et de créer ce qu'ils appellent un choc des savoirs, via par exemple le retour du redoublement ou le brevet des collèges obligatoires pour entrer au lycée. Eh bien, si tout ça fait réagir la FO53, c'est que selon le syndicat, 2500 postes d'enseignants devraient être supprimés pour la rentrée 2024. Et il relève également que, sur notre territoire, 129 classes ont été fermées depuis 2017. Toujours parmi les syndicats, la CFDT, la CGT, FSU, Solidaires 53, se joignent à la LDH, Femmes Solidaires 53, la Ligue de l'Enseignement, Citoyens du Monde, Les Trois Mondes et à la GOM 53, pour communiquer tous ensemble leur inquiétude suite à la manifestation qui a eu lieu le 26 novembre, à Laval. Toutes ces organisations associatives et syndicales qui souhaitent s'engager pour le respect des droits de toutes et tous et contre toutes les formes de discrimination disent avoir vu défiler, je cite, des groupuscules exprimant leur haine et leur rejet des étrangers en les faisant responsables de tous les maux qui touchent notre société. Ils observent d'ailleurs que le responsable départemental du RN serait un des acteurs majeurs de cette manifestation. Bon, sur un ton plus léger maintenant, Margot vous l'a dit, chers auditeurs, on vous parle du CLEP dans cette émission. Eh bien, il ne fait pas qu'organiser des ateliers de communication bienveillante, il met aussi en place depuis ce lundi 4 décembre et jusqu'au 19 décembre des boîtes solidaires au bénéfice du Secours Populaire Français. Il vous suffit de mettre dans une boîte en carton, pour reprendre leurs mots, un truc bon à manger, un loisir comme un livre par exemple, un mot doux, quelque chose de chaud, des gants ou un bonnet et un produit d'hygiène. Pour que ce soit encore plus sympa, il vous suffit de faire un emballage et d'indiquer si c'est destiné à un enfant, une femme ou à un homme. Une fois que tout ça est prêt, cette super boîte, vous pourrez la déposer sur les temps d'ouverture du CLEP au 8 impasse Haute Chiffonnière à Laval.
Et donc un petit point sport à présent.
Avec plaisir, le Stade Mayennais, qui est en Régional 1, va accueillir Rodez en Ligue 2 pour le 8e tour de la Coupe de France, ce samedi 9 décembre, à Mayenne. Avec 10 joueurs de son effectif qui sont natifs de la ville, il rêve de marquer les esprits 20 ans après le passage de plusieurs légendes. Et puis, ça y est, ce n'est plus du sport, mais le lycée agricole de Laval a accueilli un concours de jugement d'animaux bovins hier, mercredi 6 décembre, et au total, 160 jeunes se sont essayés à l'exercice.
Et alors, qu'est-ce que tu me proposes maintenant comme rendez-vous, Lucie ?
Eh bien, à Laval, c'est ce soir la compagnie Fracasse de 12, présente Chauve à 19h à l'espace Comam. C'est un duo qui allie théâtre gestuel et musique. Et ce dimanche 10 décembre, le 40 vous proposera un concert pour mettre en lumière les femmes compositrices encore très méconnues. Ça commence à 15h15 avec un prélude et le concert est à 16h au 40 à Laval. Et puis, je sais bien que je vous arrose d'informations sur les festivités de Noël, mais que voulez-vous, il s'en passe des choses ici en Mayenne. Et donc ce week-end, nos chers gastro-gontériens pourront profiter d'un marché de Noël avec au total 77 exposants, dont de l'artisanat, de l'alimentation évidemment, et aussi un espace dédié aux associations. Si tout ça ne vous a pas convaincu, il y aura également des animations, avec même la présence du Père Noël, décidément il est partout. Et ce sera donc samedi 9 décembre de 11h à 20h et dimanche 10 décembre de 11h à 19h dans le centre-ville à Château-Gontier.
Merci, pardon, je t'aime. Ces quelques mots sont essentiels parmi tout ce que l'on peut dire à son enfant. Mais évidemment, c'est bien plus complexe d'apprendre à se parler. Et tout ce que l'on dit à un enfant, ça reste en lui ensuite. Alors autant semer de jolies graines dans notre manière de communiquer. Lucie, tu as repéré un atelier communication bienveillante destiné aux parents, organisé par le CLEP à Laval. Dis-nous en plus.
Eh bien, j'ai pu rencontrer Anne-Laure Etilleux, qui travaille donc au CLEP et qui anime ces fameux ateliers Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. Comme tu l'as dit, c'est axé autour de la communication bienveillante parents-enfants et c'est en fait un cycle de 7 ateliers qui a déjà commencé d'ailleurs et qui n'est donc plus accessible aux nouveaux venus pour des raisons pratiques et d'effet de confiance au sein du groupe, tout simplement. Ceci dit, Anne-Laure Etilleux m'a précisé que si vous êtes attiré par ce genre d'atelier, il ne faut pas hésiter à lui envoyer des demandes. Elle est tout à fait prête à organiser des rencontres avec les parents qui en ont envie, y compris, pourquoi pas, des rencontres avec des parents qui ont fait l'atelier et des parents qui veulent faire l'atelier. Je n'en dis pas plus, elle a répondu à toutes mes questions, on l'écoute.
Je suis Anne-Laure Etilleux, je suis référente famille au CLEP, c'est un centre social associatif dans le centre-ville, à Laval. Ça fait plus de 40 ans qu'on existe et on a un agrément centre social. Ça veut dire qu'on s'intéresse particulièrement à ce que vivent les familles et les habitants du quartier Grand Centre-Ville. Et nos actions, elles découlent évidemment de leurs besoins, de leurs envies, de leurs projets, particulièrement auprès des habitants qui ont des vies bien chargées avec des accidents de la vie, qui vivent la précarité. On propose un atelier de communication bienveillante qui s'appelle « Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants en parlent ». Tout ça, c'est issu de toute une démarche d'étude des besoins des familles sur notre territoire. On a constaté que parfois, pour les familles, c'était pas facile de communiquer, tout simplement. Donc on a plein d'ateliers, plein de rencontres autour de communiquer en famille. Et notamment, il y a cet atelier-là, où là, c'est pas un one-shot du tout, on s'inscrit dans le temps pour apprendre à communiquer avec nos enfants de manière bienveillante et non violente, surtout. De mon point de vue à moi, c'est une communication qui ne fait pas générer de sentiments difficiles vers celui qui reçoit les mots qui sont prononcés. On a tous plein d'émotions qui nous travaillent et quand quelqu'un nous verbalise une pensée, nous dit quelque chose, eh bien soit ça vient les faire exploser, soit ça vient faire baisser la pression qu'on a à l'intérieur de soi et on est plus apte à entrer en connexion avec celui qui nous parle. Alors ça, cette définition, elle m'appartient à moi, hein, c'est vraiment de mon expérience. Ça paraît un peu absurde, mais quand on réagit plutôt sur la forme auprès de nos enfants, au lieu de faire abstraction de cette forme et de se poser la question du fond de ce qui tracasse nos enfants, eh bien voilà, on entre plus facilement en communication avec eux. Ces ateliers vont nous permettre de mieux communiquer, d'avoir un peu des tips de langage pour pas se focaliser sur cette forme et que nous, parents, on puisse accompagner nos enfants à faire baisser cette pression soit de colère, de haine, de rejet, soit de tristesse, de se sentir moins que rien, etc. Et l'objectif, il est d'apprendre à permettre à nos enfants de nous dire tout ça. Et une fois que tous ces sentiments-là sont exprimés, sont sortis, ben voilà, on est plus apte à aller dans le fond du problème pour les accompagner et à ce qu'ils démêlent leurs soucis eux-mêmes. Enfin, je pense que c'est l'objectif de chaque parent, qu'on puisse les accompagner vers ça, vers l'autonomie.
Et donc là, la communication non violente, c'est beaucoup du verbal. Est-ce qu'il y a aussi du non-verbal dans l'accompagnement ?
Alors oui, ce sont des ateliers Faber et Maslisch. Ça vient du nom des créatrices de l'atelier. Donc moi, j'ai rien inventé. Ce sont des ateliers qui existent partout en France. Alors on est vraiment dans l'idée d'une communication au sens large. On passe beaucoup par le concret. Il y a beaucoup d'exercices concrets, de mise en situation. C'est quand l'enfant nous interpelle, mais que nous on est concentrés, nous adultes, on regarde la télé, puis on dit oui, 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 puis en fait on n'écoute pas, on suit plutôt les actus à la télé ou le match de foot. Notre réponse verbale, elle n'est pas totalement inappropriée. Mais ce qui ne l'est pas, c'est notre comportement. C'est quelle attention sincère et authentique on porte à notre enfant quand il nous interpelle pour nous raconter qu'il s'est bagarré avec Michel ou qu'il a perdu ses crayons. Mais à travers ces exemples-là, on va essayer de travailler et notre verbal et notre non-verbal. S'arrêter, se retourner, s'agenouiller, se mettre à hauteur d'enfant. Les enfants, ils arrivent à décoder très très vite si on est vraiment totalement présent ou si on est absorbé par la liste de courses, le travail du lendemain, etc., etc.
En quelque sorte, aider les parents à se reconnecter à leurs enfants.
C'est un peu ça, c'est une belle formule parce que on pense juste être là pour avoir des tips de communication verbale et finalement on découvre que nos enfants ils ont toute une palette d'émotions qui les habitent. Parfois on se dit mais oui il a pas ressenti tout ça ou c'est trop minime, dans ma vie d'adulte moi j'ai des problèmes tellement plus importants. Et puis en fait, souvent, c'est une vraie découverte de la personnalité de ses enfants parce qu'on se rend compte que l'aîné, il va peut-être réagir plutôt sur des sentiments explosifs et puis le cadet, il va peut-être être plutôt sur des sentiments de repli sur soi. Donc oui, l'idée de se reconnecter avec ses enfants, je trouve que c'est une belle image. On a tous accès à des familles parfaites, mais on a parfois des parents qui se sentent vraiment nuls et ça a l'effet inverse, ça fait baisser la confiance en soi. Et en fait, chaque parent en a des compétences parentales, il suffit de les identifier parce que la famille parfaite sur Instagram, elle n'a pas les mêmes compétences que notre famille à nous qui habite dans le quartier et qui est à Laval en Mayenne. L'objectif de cet atelier-là, c'est pas d'avoir une recette baguette magique, de dire il faut les coucher à telle heure, il faut les lever machin, il faut qu'ils mangent 5 fruits et légumes. Les conseils comme ça, les parents, ils en sont noyés. Cet atelier-là, il est là pour dire, mais ayez confiance en vous, vous en avez des compétences. Et tout ce qu'on va raconter pendant ces 7 rencontres de 2h30, 3h chacune, ça ne correspondra pas à tout le monde. Mais appropriez-vous votre façon d'être parent et renforcez vos compétences. C'est évident que tout le monde en a. Donc, c'est un peu l'idée, là. Je pense que la préoccupation de vouloir être un bon parent, après on pourrait avoir d'autres débats sur ce que c'est que d'être un bon parent, je pense que c'est une préoccupation qui n'est pas récente, mais c'est un peu exacerbé ces dernières années. Ouais. L'année dernière, on avait un cycle consacré aux relations entre les frères et les sœurs. On est une dizaine par groupe. L'idée, c'est pas tellement d'être très nombreux, parce qu'ils se livrent des choses personnelles et familiales dans ces rencontres-là, mine de rien. Et il y a une espèce de connivence de groupe qui s'instaure au fur et à mesure des semaines qui passent. Et sur un groupe de plus de 12 personnes, c'est moins facile, cette confiance de groupe et le fait d'être collectivement embarqué dans cette aventure-là. Plus on est nombreux, moins c'est facile.
C'est plus intimiste, ça ouais. Laisse plus d'espace à chacun pour s'exprimer.
C'est l'idée aussi, parce qu'on se dit 2h30, 3h, mais qu'est-ce qu'on va raconter ? Et finalement, entre le début d'un atelier et la fin, on se questionne beaucoup. Moi, j'aime beaucoup animer ces ateliers en laissant la place à la parole, parce que je trouve que de partager l'expérience, ça peut permettre à quelqu'un d'autre autour de la table de faire mûrir sa réflexion et de cheminer. Et je pense que c'est indispensable de se l'offrir ce temps-là quand on participe à ce genre d'atelier. Ouais.
Et donc là, il y aura au total 7 ateliers. Tu en as animé un premier lundi ?
Oui, exactement.
Comment est-ce que ça s'est passé ?
Alors, c'est toujours surprenant, les premiers ateliers, la première rencontre du cycle, puisque les parents ne se connaissent pas encore. C'est un atelier qui bouscule un peu le premier parce qu'il fait tomber des barrières. On se dit « Ah, mais en fait, mes enfants, ils ressentent ça ». Et parfois, lors de ces premiers ateliers, il y a une vraie prise de conscience de ce que vivent nos enfants. Alors, soit ceux qui sont au foyer, soit ceux qu'on croise, nos neveux, nos nièces, les petits copains de l'école de nos enfants. On a une vraie prise de conscience de ce que vivent les enfants dans notre entourage. C'est un peu surprenant, c'est un peu débordant. Je pense que le groupe va vivre des bons moments ensemble, puisque l'idée, c'est d'apprendre, de sourire, de rire. L'idée, c'est de venir avec plaisir, et la convivialité, ça fait partie de ce plaisir-là. On ne se connaît pas encore beaucoup, mais ce qui est évident, c'est qu'il y a beaucoup de respect déjà entre les participants. Tout le monde vient livrer un petit bout de sa famille dans ces ateliers-là. Donc le respect entre participants, c'est indispensable. J'espère qu'entre eux, il y aura de la bienveillance, mais j'en doute absolument pas. Alors, un atelier, il y a toujours plusieurs phases. La première, il y a une prise de conscience de ce que vivent les enfants. On transpose une réalité quotidienne d'enfant à une réalité d'adulte. On a fait un exercice, par exemple, lundi, où on était au travail et où notre patron nous demande un travail urgent à faire, on est alpagué devant tout le monde, on n'a pas eu le temps de le faire, etc., etc. Donc en fait, on transpose ce que vivent nos enfants dans un quotidien d'adulte. Et là, on se rend compte de tout ce qui émerge chez nos enfants. La deuxième partie, c'est qu'on découvre ce qu'on appelle des habiletés de langage. Comment notre langage, notre posture, elle peut limiter la naissance de ces sentiments qui sont pénibles, soit la grosse colère, soit la grosse tristesse. Donc là, il y a toujours cette phase-là de découverte de types de langage. Et puis, il y a toujours une troisième phase où on se met en exercice, soit des exercices dans un cahier assez scolaire, faut se le dire quand même, et des mises en situation où chaque parent va avoir un rôle d'un enfant imaginaire et d'un parent imaginaire, et ils vont jouer un rôle où on va mimer des langages et des conversations entre parents et enfants, et on va s'exercer à utiliser les types de langage qu'on aura découvert juste avant. En gros, une séance, ça se prépare comme ça. Et on mange entre deux.
Et pour ceux que ça intéresse, vous pouvez contacter Anne-Laure Etilleux soit directement au CLEP 8 Impasse Hautchiffonnière à Laval, soit au 02 43 56 41 31.
Cette gare, ce restaurant, je les ai toujours connus ici, je les ai toujours connus comme ça. Les choses bougent, les choses changent et parfois pour du mieux. Comment réemployer des lieux inhabités? Comment être créatif même si tout cela ne peut être qu'éphémère? C'est le sujet du reportage Pensée locale de la semaine réalisé par Pierre Benoît de Radio G. On l'écoute dans quelques minutes dans l'agité du local. Vous pouvez retirer votre écharpe, votre bonnet et vos gants. Rangez aussi le manteau d'hiver. Je ne suis pas loin de vous proposer un cocktail fruité, une rondelle de citron au bord du verre pour s'étendre un instant sous le soleil avec Voyou et November Ultra.
Chavire mon cœur, engourdi du simple plaisir. D'être à ne rien faire, à scruter des heures, assis à ma fenêtre. Un rayon passe et tout vient à briller. Les tout petits riens prennent vie au fond de mes yeux. Soleil, soleil, quand tu t'invites aux merveilles à ma fenêtre. Soleil, soleil, soudain la poussière se transforme en paillettes.
Des espaces éphémères que l'on réinvente. Le site du 42 rue Henri Hamelin de Belbeil à Angers est voué à la déconstruction en 2025 dans le cadre de la rénovation urbaine. Éphémère, le lieu est investi par différents acteurs et actrices de l'économie circulaire et du réemploi au profit de la vie de quartier. Associations, artistes et professionnels se sont installés pour profiter des espaces de travail. Les habitants peuvent profiter d'espaces de bricolage et de jardinage partagés, ainsi que de nombreuses animations. C'est notre collègue Pierre Benoît de Radio G qui a rencontré Amandine Robin, coordinatrice à l'établi et en charge du projet du 42. Alors avant de faire tomber les murs, on bricole, on jardine, on fait du lien. Écoutez.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Sur le quartier de Belbey, il y a un programme de rénovation urbaine. En l'occurrence, ce bâtiment-là fait partie de ce qui va être déconstruit parce qu'a priori, en termes de réhabilitation, c'est trop compliqué.
Amandine Robin coordonne le projet du tiers-lieu éphémère, le 42, au cœur du quartier de Belbey, à Angers. Ancien locaux des services sociaux et d'une garderie, le bâtiment voué à la déconstruction est investi de manière légale par un projet autour de l'économie circulaire profitant à différentes associations locales, différents acteurs et actrices, ainsi que les habitants du quartier.
Alors c'est vrai, quand on le voit de l'extérieur, ça fait quand même un bâtiment assez ancien, peut-être un peu institutionnel. C'est un grand cube avec plein de fenêtres, mais il a un espace au milieu qui est un patio, donc il a un espace extérieur et donc toutes les pièces gravitent autour au rez-de-chaussée. Il y a à la fois des petites pièces et des un petit peu plus grandes. Et puis après, on a un étage, mais sur une partie seulement du bâtiment qui donne sur la rue. Donc c'est vrai que là, comme ça, ça fait un peu cube. Mais quand on rentre dedans, je trouve que du coup, on découvre vraiment un lieu assez sympa et circulaire d'ailleurs. Ça va bien avec la thématique de l'économie circulaire.
C'est quoi son rôle? Il sert à quoi ce tiers-lieu? C'est quoi ce 42?
Je parlerai d'enjeu en fait, parce que c'est l'idée aussi de créer les conditions favorables pour que les gens ils se sentent à l'aise aussi à venir investir ce lieu-là, parce que c'est vraiment que ce soit un lieu de vie en fait avec et pour les habitants et habitantes du quartier. L'idée d'expérimenter ensemble, de créer, de fabriquer, de bricoler autour de, alors on parle d'économie circulaire, mais nous on va parler plus de réemploi, de récupération et de réparation.
Je m'appelle Laure, bonjour.
Qu'est-ce que tu es en train de faire avec cette boîte de café vide?
Et ben du coup je découvre comment faire des photos à base de cyanopée, j'ai un doute sur le nom. Et du coup voilà, donc j'ai développé tout à l'heure ma première photo. L'idée c'est que ça fait comme une petite chambre noire entre guillemets. C'est la première fois que je viens faire un atelier découverte comme ça. Moi j'ai découvert le lieu via l'association Atelier et Papotage et j'avais jamais fait les autres ateliers et franchement c'est super et l'accueil est très très ouvert, très agréable, c'est vraiment génial.
Moi je suis Cyril et je viens parce que j'avais un peu de temps à tuer et c'est une collègue qui présente l'atelier et du coup je suis venu avec elle pour pouvoir découvrir le sténopé. L'idée c'est de fabriquer une chambre noire avec une boîte de conserve, de la peindre en noir et de mettre un papier photo à l'intérieur et de capter la lumière avec un tout petit trou fait à l'épingle. Je pense que les gens sont plutôt ouverts, on est là pour se rencontrer et c'est le but des lieux associatifs où du coup il y a beaucoup de rencontres qui se fait.
Alors c'est vrai qu'il y a une quinzaine d'occupants dans ce lieu-là. Ce sont soit des associations, soit des entreprises, soit des micro-entrepreneurs, entrepreneuses ou des artistes. Donc il y a l'asso Satellite notamment, qui est une asso qui soutient et valorise les artistes locaux. Donc on a 5 artistes qui sont installés au 42. Il y a Made in Clémence sur la valorisation textile. On a Julie de Coquelicot et Papillon qui est plutôt sur de la sensibilisation à l'environnement. On a Joff qui crée son activité autour de la permaculture. Donc il y a toujours ce fil rouge-là du réemploi et de la récup, mais du coup c'est des statuts assez variés dans les occupants et occupantes.
Alors je m'appelle Margot Pleber. Alors du coup là on prépare un petit marché de Noël de l'art contemporain au 42 pour acheter de l'art pas trop cher, un petit peu abordable. Et donc je suis en train de préparer plein de petites sculptures faites avec de la récupération de verre cassé que je viens coller et agglomérer pour créer du coup des petites sculptures. C'est difficile d'en parler sans que ça se voit, mais en gros c'est ça que je fais. Le travail d'artiste c'est quand même un travail assez solitaire, souvent. Et là, c'est un plaisir de pouvoir se mélanger avec des gens qui font d'autres choses. Il y a plein d'énergie, plein de projets ici. Et le fait de venir, même quand on n'a rien à faire, c'est aussi parce qu'il y a une ambiance qu'on trouve ici, qu'on trouve nulle part ailleurs. Enfin, les habitants, les gens qui ont des projets. Enfin, il y a plein de gens hyper motivés qui se croisent. Il y a plein de choses qui se passent. C'est trop cool. J'espère que je trouverai d'autres lieux comme ça pour rebondir. Je pense que c'est tout ce qu'on espère tous. Okay.
Le jour où il faudra plier bagages et tout ranger, à ton avis, qu'est-ce qui restera comme souvenir très fort pour toi dans ce lieu ?
Je pense vraiment des rencontres. Après, même si le lieu arrête, se termine, est déconstruit, je pense qu'il y a quelque chose qui va se créer. Dans tous les cas, il y aura des liens qui se tissent entre les gens. Et puis même sur ce qu'on va expérimenter et ce qui se mènera, on s'est dit avec le collectif que de toute façon, cette année, il va falloir qu'on se pose la question de quelle continuité on peut donner. Comment est-ce qu'on a bien en tête cette fin de bâti, mais qui permettent quand même de poursuivre après derrière.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Un reportage réalisé par Radio G. Interview, prise de son et montage, Pierre-Benoît Leclerc.
On revient en Mayenne, on revient dans l'agité du local sur l'autre radio 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Mais avant de terminer cette émission, on met les écouteurs de Lucie dans nos oreilles.
Ils passent bientôt au carré à Château-Gontier. Ils viennent tout droit de Manchester au Royaume-Uni. C'est le trio Gogo Penguin qu'on écoute avec leur titre phare Ho'oponopono. Avec eux, c'est sûr, tout va bien se passer. Everything is going to be okay. C'est leur nouvel album que vous pourrez découvrir le samedi 16 décembre au Carré, à Château-Gontier.
Et ça y est, Lucie, on est arrivé à la fin de cette émission. Mais ça continue bien sûr sur l'autre radio. Vous allez commencer votre soirée en compagnie du Grand V.
Alors Margot, j'ai l'impression qu'il nous emmène dans des sonorités espagnoles aujourd'hui. C'est un peu la surprise, mais toujours des bonnes surprises avec Valentin et Delphine.
Bien sûr, et à 21h, on réécoute une émission de Transistor.
Oui, vous l'aviez peut-être manqué. Dans cette émission, on découvre la scène musicale du 5-3. On alterne concerts et interviews en compagnie de trois artistes, et tout ça à l'heure de la l'apéro.
Un apéro un peu tardif, quoique, il n'y a pas d'heure pour les bonnes choses.
Que demander de plus, franchement.
Je ne sais pas si vous l'avez vu passer cette semaine, mais on est déjà jeudi. Et donc demain sera la dernière émission de la semaine pour nous. Et demain, je vous emmène à Mayenne en compagnie de l'association Bien-être en Mayenne, Naître comme naissance. On la découvrira ensemble autour d'une tisane pour rester sage. Je vous souhaite une bonne journée, faites de belles choses. En tout cas, faites-le bien.
Bon ben, Mimi, on dirait que c'est fini.